Neil Glassberg d'une compagnie qui s'appelle PSI Sports. C'est pas PSI.
PBI.
Excuse-moi. PBI. PBI Sports. Excuse-moi, Neil. Neil qui a grandi à Montréal?
Oui. NDG.
À NDG.
NDG.
Notre-Dame-de-Grâce.
Oui, West Hill High School, Vanier, McGill.
Hein?
Oui, oui, oui.
T'as pas perdu ton français?
Oui. Mais là, je reste à Toronto, ça fait presque 30 ans. Puis la seule fois vraiment que je me pratique, c'est quand je suis à Montréal, qui est pas trop souvent.
OK.
Alors là, c'est ce que tu entends maintenant.
Oui.
C'est là, je me suis réveillé à 5 heures ce matin.
OK.
Puis je me suis assis devant le miroir. Puis j'ai pratiqué mon français.
Neil Glassberg et Tony Marinaro à la radio en français. Mais c'est quelque chose, mais lui...
Il n'a même pas d'accent, là. Mais c'est non, incroyable.
Mais lui, il est beaucoup bon. Plus impressionnant que Tony Marinaro parce que lui a quitté pour le Toronto.
Pas aussi beau.
Non, non. Ça, on le sait. Mais écoute, mais ça...
My brother from another mother.
Hey, mais inquiète-toi pas, là. C'est parce qu'il n'y a personne à Montréal qui est beau comme moi. Mais, non, mais c'est quelque chose que ce qu'il vient de dire, là. Lui a quitté Montréal pour Toronto il y a 30 ans. Puis encore, il parle français. C'est quelque chose, hein?
C'est ouais, exactement. C'est ça.
Non, mais vraiment, là, je rencontre plusieurs personnes à Toronto qui sont originaires de Montréal, qui ne savent pas parler français. Aucun mot de français. Puis j'en ai des amis ici à Montréal, anglophones, aussi, qui ont un petit peu de misère. Alors pour moi, peut-être c'est quelque chose, mon père qui est décédé a parlé 9 langues.
Oh, wow.
Fluemment. Wow. Quand il a vécu en Europe, yep. Quand il était né en Europe.
Mais ça, c'est, si je peux, ça, c'est un de mes plus grands fiertés, que je parle 5 langues.
Exactement.
OK? Maintenant, il y en a qui diront qu'il n'y en a même pas un que je parle bien. C'est vrai?
OK? C'est une mélange.
Mais je peux m'exprimer en anglais, en français, en italien, en espagnol, puis en portugais. Ton père, il parlait 9 langues. Il parlait quoi?
Oh, my God. Parle hébreu, anglais, français, allemand, italien, parce qu'il a vécu en Italie.
L'allemand, là, ça, c'est une langue qui est difficile à apprendre.
C'est un autre
l'allemand.
Niveau, là.
Oui. Wow.
Oui. Mais les langues, comme les langues de... mon père était né en Roumanie.
Alors, OK.
Il a parlé roumanien. Mais toutes les langues, dont comme Moldova,
oui.
Roumanie, tous ces pays-là, sont pas mal familiers, sont pas mal similaires.
OK.
Alors, encore une fois, c'est 9 qui a parlé, puis comme toi... on comprenait rien parce qu'on savait pas qu'est-ce qui s'en venait pas dernièrement. Mais une chose, Tony, qui est vraiment intéressant, puis je oui. remarque ça quand je suis à Montréal. J'étais à l'hôtel le matin.
OK.
Il y avait deux employés. Il y a un qui parlait anglais, l'autre qui répondait en français.
Bienvenue c'était à Montréal.
C'était une conversation complètement fluide, dont les deux parlaient les deux langues. Alors, c'est quelque chose que moi, comme j'ai vécu à Montréal pour longtemps, j'ai toujours apprécié.
Wow.
C'est quelque chose qui ne fonctionne pas ailleurs dans le monde.
Non.
Nulle part dans le monde. C'est vraiment impressionnant.
Ça fait partie de notre beauté.
Ben,
notre beauté culturelle. Hein?
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Puis moi, peut-être vous autres, vous vivez ici, mais pour quelqu'un comme moi qui est pas ici, qui visite pas autant, je remarque ça tout le temps. C'est okay. vraiment impressionnant.
Donc toi, Neil, tu as grandi à Notre-Dame-de-Grâce.
Oui.
Puis tu as quitté Montréal, tu as dit, il y a 30 ans.
À
si tu peux
oui.
nous dire à quel âge tu as quitté Montréal pour que...
Mais j'ai gradué de McGill en 1900.
Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question pour voir si tu avais fait tes études ici.
Oui, à McGill, 84. J'étais engagé par General Motors à Oshawa.
OK.
Tout de suite en graduant de McGill. Alors, j'ai quitté en 84. Puis j'avais...
Donc, toutes les fameuses histoires qu'on entend que dans les années 70 puis les années 80, il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de Montréalais qui ont pris de leur argent puis de leurs centaines de milliers de dollars qu'ils avaient dans les poches pour les amener à Toronto. Toi, tu fais partie du groupe, là. Toi, t'as pris tout ton argent,
oui.
toutes les centaines de milliers de dollars que t'avais dans les poches, t'es parti pour Toronto,
oui,
hein?
Des dollars que j'avais quand j'ai gradué de McGill, oui. Non, mais dans mon cas, j'ai été transféré. Tout de
okay.
suite en graduation.
Okay.
Alors, c'est pas moi qui ai décidé
ouais,
de
ouais.
partir, de quitter le Québec.
Le choix était fait pour toi.
Exactement.
Ouais.
Puis, 10 fois que j'ai été transféré après ce temps-là, de Montréal, Toronto,
ouais.
Montréal, Boston. Alors, c'est quelque chose de emballer toutes tes affaires, puis d'aller à une autre ville.
On va en parler de ta business, ta grosse business que t'as bâtie, puis bravo, puis chapeau à toi, parce que tu t'es trouvé une niche, puis c'est exceptionnel, qu'est-ce que tu fais, puis on va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, J'imagine que les gens veulent savoir comment tu te trouves à Toronto, puis s'il vous plaît, mets-en pas trop, OK? Puis ne fais-nous pas. Mais comment tu trouves, puis c'est quoi tu trouves des différences entre Toronto puis Montréal?
J'ai remarqué quelque chose hier, hein, parce que j'ai conduit hier. Premièrement, tous les feux de circulation à Montréal, pour vous autres, là, qui restent ici full-time, ça marche. La circulation à Montréal, ça marche parce que les feux sont synchronisés.
Exact.
OK? Je suis parti de l'hôtel ici au centre-ville, puis je me suis allé à Jean Talon et Avenue du Parc.
Oui.
J'ai pas frappé une lumière rouge.
Hey, c'est un miracle, là. Attends, c'est parce que ça prend vraiment quelqu'un de Toronto pour nous dire que la circulation de Montréal fonctionne.
Vrai. C'est exactement,
parce que c'est un bordel, Montréal, pour nous.
C'est exactement pour ça que je le dis, parce que je réponds à ton question.
Oui. Oui.
À Toronto, ça fonctionne pas. Parce que les feux de circulation sont pas synchronisés.
Ah, wow.
Il y en a quoi? Une dizaine, une vingtaine de fois le monde de voitures. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Puis la deuxième chose...
Mais la congestion, on parle du trafic ici à Montréal à cause de la construction.
Oui.
Mais à Toronto, on parle du trafic à cause de la congestion, à cause des nombres de personnes et des nombres de voitures.
Mais ce qu'on a en commun...
Oui.
Puis j'ai dit ça, j'étais avec Danny Machocha hier soir.
Ah oui?
Je l'ai fait apprendre. C'est que les bike lanes, les voies pour les bicyclettes...
Les pistes cyclables
sont hors contrôle. OK, ils sont hors contrôle.
Ici ou à Toronto?
Mais ici, probablement ici. Aussi, mais je n'ai pas remarqué encore.
T'as-tu vu les pistes cyclables qu'il y a dans cette zone-là? Il y a plus de bicyclettes. Non, mais il y a plus de bicyclettes qu'il y a de voitures.
Oh, probablement.
C'est un problème.
Mais à Toronto, c'est pas une leçon de géographie, mais Yonge Street, Bloor, puis University. C'est les trois pistes, les trois rues les plus importantes, les plus voyageants. Le premier, Doug Ford, l'autre jour,
ouais.
a annoncé comme quoi les pistes pour les bicyclettes sur ces trois rues-là vont disparaître.
Ah oui,
enough
ils vont disparaître.
Enough is enough.
Wow.
Puis j'ai vu un tweet hier soir.
Je ne sais pas si tu sais ça, mais c'est hier que ça a été annoncé que notre mairesse, Valérie Plante, va pas...
Elle ne se représente pas. Elle ne se représente pas
pour un troisième mandat.
Oui.
Qui va prendre fin en 2025. C'est-tu octobre ou novembre? Il me semble novembre 2025.
Ça va être novembre 2025.
Novembre 2025. Puis il y en a qui aiment beaucoup les pistes cyclables. Puis il y en a. Moi, je dis, c'est correct, là, je comprends, mais je ne veux pas ouvrir maintenant. Mais pas au détriment d'avoir du trafic. On ne peut pas trouver du stationnement. Puis si on ne peut pas trouver du stationnement, il y a des business qui ne peuvent pas rouler non plus. Là. Bientôt, je vais aller à la mairie. On va voir que ça... Penses-tu que j'ai des chances si je m'en vais à la mairie?
Si Tony tu te Marinaro? Présentes à la mairie de Montréal, Tony, je te promets que tu deviens maire de Montréal.
Si je m'en vais à la mairie, j'amène comme assistant ma mère.
Non, mais attends, il va falloir qu'elle parle français.
mais une chose avec les pistes cyclables, Doug Ford, l'autre jour, il a dit, pourquoi est-ce qu'on construit les pistes cyclables pour 1,7% de la population qui utilise les bicyclettes quand il y a 70% qui utilisent des voitures qui n'utilisent pas les pistes cyclables? Ça n'a pas d'allure. Use common sense.
Mais c'est ça, c'est la mathématique. Là, c'est un peu la logique. Moi, je dis... Pourquoi on met les pistes cyclables sur la rue Saint-Antoine, qui est la rue pour l'entrée du Centre Bell, un des rues pour les entrées du Centre Bell, où est-ce qu'il y a une entrée, un stationnement, qui est la même sortie pour avoir la congestion à la fin de tous les événements qui sont au Centre Bell? Mais là, OK, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire sur les pistes cyclables, là, c'est fini. Est-ce qu'on va aller à la pause là pour...
Oui, absolument, tu peux aller quand tu veux.
OK, on va aller à la pause. Puis au retour... Tu vas nous parler de la compagnie que tu as fondée avec combien d'entraîneurs, directeurs généraux puis assistants directeurs généraux que tu représentes ou que tu as déjà représenté? Combien environ?
Là, je suis à un niveau d'à peu près 50.
Environ 50?
À peu près.
Dans toutes les ligues majeures?
Oui. Ouais.
Est-ce que pour piquer la curiosité de nos auditeurs, nos auditrices, pour qu'ils restent avec nous, tu peux dire... qui t'a déjà représenté et qui tu représentes dans le monde du hockey?
Ben présentement, Mike Sullivan. J'ai tout le banc des Penguins de Pittsburgh, effectivement.
Tout le banc.
Tous les entraîneurs.
Même le banc tel quel, le banc. Je ne représente pas le banc, non.
Non, le malheureusement, je ne suis pas rendu à ce point-là.
Tu représentes.
Peut-être tu vas me rendre sur le banc.
tu représentes Mike Sullivan et tous ses adjoints.
Tous ses adjoints aussi que les Ryan Warsawski à San Jose, puis tous les dirigeants des San Jose Sharks.
OK.
Présentement. Puis un nom que tes auditeurs et auditrices vont connaître, c'est certain, c'est Pascal Vincent.
Tu représentes Pascal.
Oui.
L'entraîneur en chef du Rocket de Laval.
C'est ça.
On est de retour avec Neil Glassberg d'une compagnie qui a fondé PBI Sports. Il représente des entraîneurs, des DG, des assistants DG et des exécutifs dans le monde du sport, dans toutes les ligues. Puis évidemment, il y a beaucoup d'intérêt pour... Danny Machocha, oui. t'as dîné avec Danny hier. Est-ce que t'as déjà représenté Danny?
Je lui ai donné du conseil.
Tu l'as conseillé. Oui. Tu l'as conseillé.
Oui, oui.
Et t'as conseillé d'autres. T'as facilité la tâche aussi pour mettre d'autres en contact avec d'autres équipes. Il y en a que tu ne représentes pas, que tu as déjà essayé de faciliter. Moi, j'en connais quelques noms. Là. Oui. Mais t'as déjà travaillé avec John Tortorella?
Oui. Oui, j'ai travaillé avec John quand il est transigé du Columbus à Vancouver.
OK.
Alors, j'ai travaillé avec lui. C'est moi qui ai fait le deal, effectivement. Je m'excuse. Du Vancouver, l'autre sens. Vancouver à Columbus.
Parle-moi de ce monsieur-là.
Oui.
Parce que les gens qui le connaissent disent qu'il est une bonne personne. Puis j'en doute pas. Mais devant la caméra, des fois, il est bête, mais pas bête hein, qu'un peu, là, mais bête. Toi, évidemment, que tu l'as connu au niveau personnel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage-là, John Tortorella?
John est probablement une des personnes les plus candides, the most candid people que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est quelqu'un qui prend ce qu'il fait au sérieux. Même quand dans les conférences de presse, ça a l'air qu'il n'est pas sérieux, il est très sérieux, premièrement. Deuxièmement, sa femme elle est dans le business des animaux, des rescue animals.
Oui.
Des chevaux, des chiens, des chats.
Comment tu dis le terme en français?
Rescue animals, c'est pour sauver des
animaux.
Oui, exactement. Là, ouais. La protection animale, voilà.
Alors, c'est tellement genuine, c'est tellement du cœur.
Mais ça prend du bon monde pour faire ça, là.
Absolument. Puis elle écrit des livres, elle est un auteur aussi.
Un écrivain.
Un écrivain, c'est ça. Mais John, c'est quelqu'un qui prend ce qu'il fait au sérieux. Quand il voyageait, j'ai jamais eu l'opportunité de lui rencontrer un jour, le jour d'une partie, d'un game day. Il était toujours en focus, puis il ne voulait rien savoir.
Pas de distraction les jours du match.
Du tout.
Puis c'est fait. Même pour un gars qui l'a déjà représenté, là. Lui, il pense au match, puis un qu'au match.
Exactement. Puis si j'ai besoin de t'en parler, je sais où je peux te rejoindre.
Ouais.
Puis c'est John, effectivement, qui m'a présenté à Mike Sullivan. Parce que les deux travaillaient ensemble depuis plusieurs années comme entraîneur en chef, assistant.
Oui.
Ils étaient à New York ensemble, ils étaient à Tampa Bay ensemble, ils étaient à Vancouver ensemble. Puis c'est John qui m'a présenté Mike, qui m'a demandé si je pourrais représenter Mike Sullivan.
Oh, alors wow, j'ai dit, chose.
Puis je connaissais pas Mike Sullivan du tout. Je le connais par vue, mais j'ai jamais parlé avec lui. Puis ce que j'ai dit à John, j'ai dit oui, mais il y a une chose que je vais faire. C'est une commitment que je fais. C'est que je vais séparer les deux marques, là, les deux personal brands de John Tortorella et Mike Sullivan, parce que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient ensemble. Puis j'ai dit que chacun d'eux, des deux personnes, avait besoin d'être leur personne, comme leur personal brand.
Oui.
Complètement séparé des deux.
Puis c'était aussi, évidemment, c'était très bon pour Mike Sullivan qu'au lieu d'être un adjoint à John Tortorella, on lui donne l'opportunité d'être un entraîneur en chef.
Exactement. Alors,
comment t'as vendu John Tortorella à une autre équipe, l'idée de l'embaucher quand... John Tortorella, on connaît, il avait beaucoup de succès, évidemment, avec le Lightning de Tampa Bay. Il a gagné la Coupe cette année avec eux autres. Si je ne me trompe pas, c'était en 2004, mais je peux pas te tromper de l'année, oui. Là. Par contre, après ça, c'était pas. Il y a des années où c'était pas convaincant, mais c'est dans un temps où est-ce qu'il faut évoluer puis il faut maintenir la communication, parce que lui, il avait encore la réputation d'être un gars qui était dur avec ses joueurs. Comme, c'est pas au point peut-être, mais comme Mike Keenan a déjà été dur avec ses joueurs, on le voit en train de prendre le joueur par le chandail, là, t'sais, on dit qu'aujourd'hui, en 2024, là, ça fonctionne plus. Il y en a qui sont surpris que John Tortorella est encore entraîneur dans la Ligue nationale. Toi, comment tu as fait pour vendre l'idée d'embaucher John Tortorella à une autre équipe?
Mais une chose que je vais juste clarifier, ce que tu viens de dire. Quand je parle aux anciens joueurs qui ont déjà joué pour John,
oui,
n'importe où, ce que j'entends 100% des temps, c'est soit ils détestent ou soit ils aiment puis ils disent que c'est le meilleur entraîneur qu'ils ont jamais joué pour.
Comme on dit en anglais, il n'y a pas in-between. Il n'y a pas de
gray area. C'est blanc ou c'est noir.
C'est ça. Il n'y a pas de in-between. Alors, les gars qui l'ont détesté...
Oui, mais ça, c'est...
C'est parce qu'il était dur. Puis, il n'y a pas... C'est pas quelqu'un qui mélange ses mots.
Non, mais ça, c'est quelque chose... Quand j'entends ça, c'est quelque chose. Parce que si t'en as 19 qui jouent, 20 qui jouent, là, il y en a 10 qui l'aiment, puis 10 qui ne l'aiment pas, là. C'est pas facile de gagner, là.
Oui. Mais ce que, juste en passant, juste un commentaire, Tony, parce que je travaille avec tellement d'entraîneurs, présentement, pour ce que tu viens de dire... Ce qui est important, c'est qu'il y en a 20 cœurs puis 20 cerveaux dans le chambre, dans le dressing room.
Oui.
Alors, les entraîneurs de cette génération,
oui,
commencent à comprendre qu'il faut gérer les joueurs différemment. Ils ne peuvent pas être la même...
avec tous les joueurs.
C'est ça. Alors, il faut vraiment apprendre... à connaître les joueurs,
oui,
puis what makes them tick.
Lui, il ne peut pas gérer Couturier de la même façon qu'il va gérer Michkov.
Exactement. Mais ils ne peuvent pas montrer un avantage à quelqu'un d'autre. Alors, c'est tricky. C'est pas quelque chose... On dit en anglais, you can't paint everybody with the same paintbrush.
Oui, c'est ça.
C'est une question d'être tellement indépendant au point de vue comment tu gères tes joueurs.
Qu'est-ce que lui a fait à un moment donné... que ce soit dans le hockey, sur le banc, durant un match, durant une conférence de presse, à pratique, à l'extérieur. Est-ce qu'il a fait quelque chose que tu as remarqué, que tu as vraiment impressionné pour dire « OK, wow, là, je comprends, là. C'est ça, John Tortorella. »
Il a fait plusieurs choses. Ce qu'il vient de faire récemment, là, on va parler des nouvelles récentes, c'est lui qui a été invité le père de Johnny Gaudreau.
Oui.
Aux pratiques des Flyers de Philadelphie.
Oui, ça a été un geste humain...
Incroyable. Alors, pour retourner à ce que tu m'as posé il y a 5 minutes, ça, c'est John Tortorella. C'est quelqu'un qui pense à ces choses-là. L'année passée, il y a eu un gars, je ne me souviens pas quel âge, peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui est malade,
okay,
qui a gardé sur le banc pour une période d'une partie de hockey des Flyers. Il était comme un coach spécial.
C'est quelque chose.
Wow.
Tu me
comprends.
Ça, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est pas. Puis John, il le fait pas pour avoir des views ou des likes ou whatever. C'est lui. C'est naturel.
Je sais même pas s'il est sur les réseaux sociaux, mais là, j'en doute.
Du tout.
Non.
Il n'y est pas. Mais ça, c'est deux histoires là, dans les derniers 12 mois pour ce qui représente.
Mais ceci étant dit, est-ce qu'il est un entraîneur qui coach avec son cœur puis qui motive les joueurs ou est-ce qu'il est un très bon tacticien? Ou est-ce qu'il s'entoure de tacticiens? Est-ce que Sullivan a été le tacticien pour lui, oui ou non? C'était quoi?
Oui, puis encore une fois, Mike était encore le tacticien. J'ai jamais vu quelqu'un qui a tellement de focus sur l'équipe. Mike Sullivan, il fait du vidéo sur les vols d'une partie à une autre. Il est toujours sur devant son ordinateur en regardant la partie pour voir.
Wow.
Tous les entraîneurs ne fonctionnent pas de la même façon. Mais John est un tacticien, puis il est un motivateur en même temps.
Wow. OK. On va passer aux Canadiens.
Mm-hmm.
Là, tu as Pascal Vincent.
Oui.
Qui a déjà été avec le Moose de Manitoba.
Oui.
Hein, avec les Jets à Columbus. Comme adjoint, là, il a hérité du poste après qu'ils ont congédié Mike Babcock. Et là, malheureusement, il a perdu son poste, mais le Canadien l'ont vite embauché pour être l'entraîneur du Rocket. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pascal Vincent? Est-ce que, là, je te pose une question fort, fort tout de suite, là, OK? C'est ton client, puis tu vas être biaisé, puis je comprends, OK? J'ai pas de problème. Mais là, est-ce que tu vas faire ton job de vendeur, OK? Martin est là, il est en place, puis on souhaite que Martin reste le plus longtemps possible. On ne souhaite pas la perte de poste de personne, OK? Est-ce que toi, tu es convaincu que Pascal Vincent, un jour, pourrait être l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal? C'est une question difficile que je te pose, puis je ne voulais pas te mettre dans...
C'est pas une question difficile. Je répondrais de cette façon-là. Est-ce que je suis convaincu que Pascal reviendra comme un entraîneur-chef dans la Ligue nationale? Oui, absolument. Est-ce que c'est bien passé à Columbus? Est-ce qu'ils ont eu du succès qu'ils voulaient? Non. Okay. Si on va parler de tout ce qui s'est passé à Columbus, je devrais rester ici pour une semaine au complet. Parce que là, il y en a tellement de choses qui sont passées. Tu as parlé de Mike Babcock. La manière dont Pascal a été engagé comme entraîneur-chef, c'était suite à la firing,
le congédiement
de Babcock. 3 jours avant le camp d'entraînement commence. Je peux te dire, Tony, que le planning pour ces camps d'entraînement commence quand la saison finit. Pour la saison prochaine, c'est tout l'été. Ils dépensent leur temps à planifier.
Tu viens de dire quelque chose d'important, là, parce que, blague à part, là, tout un défi pour Pascal Vincent, parce que lui, il se met dans la tête d'un entraîneur adjoint pour commencer une saison, puis quelques jours avant que ça commence... Lui est l'entraîneur-chef, dont lui, sa façon de se comporter peut-être avec les joueurs comme entraîneur adjoint, doit peut-être changer à 180 degrés pour maintenant être l'entraîneur. Puis les responsabilités qu'il avait, il doit peut-être les donner à quelqu'un d'autre pour assumer d'autres responsabilités qu'il ne s'était pas préparé en conséquence. Je ne sais pas si qu'est-ce que je dis, j'ai raison.
T'as absolument raison.
Mais j'ai toujours raison.
Je ne dirais pas toujours. Là.
Mais, moi non plus.
Mais c'est comme good cop, bad cop. C'est exactement
ouais, bon
ça.
Bon policier, puis...
Aujourd'hui, t'es un assistant, puis 3 jours après, t'es l'entraîneur-chef. La manière que tu transiges, tu communiques avec les joueurs, ils changent comme ça. Et puis, beaucoup de gens, ils pensent pas à comment est-ce que ça marche. Moi, je le fais comme carrière, alors là, je comprends. Mais c'est difficile de rendre 3 jours après le début du camp d'entraînement, t'es rendu comme entraîneur-chef. Il faut que tu planifies toutes les pratiques, toutes les drills, l'équipe, qui va jouer avec qui. Puis il faut que tu oublies les 2 ans précédents parce que tu n'étais pas entraîneur-chef. Alors tu peux dire, peut-être si j'avais l'opportunité, j'aurais prendre une décision différente qui a été prise. Mais là, tu es rendu dans le point que who cares?
Quel genre d'entraîneur est-il Pascal Vincent?
Quand on parle de John Tortorella, moi, je dirais que la personnalité de Pascal oublie les affaires d'un cirque, des fois, oublie les affaires des choses qui sont pas pensées, qui sont dites. C'est comme ils disent des choses avant de les penser. Là, je parle de John. Pascal est très, il a un focus incroyable. Il est très intelligent. Il est très cérébral. Puis je ne sais pas si vos auditeurs et auditrices connaissent ou non. Mais Pascal était très prêt à aller à med school, école de médecine, avant qu'il ait été engagé dans le monde de hockey.
Alors, ma mère, dans le temps que j'allais au cégep Dawson, elle disait à ses amis que son fils voulait être cardiologue, mais c'est parce que je jouais aux cartes. Mais ma mère pensait que je...
Mais c'est ça.
Mais j'avais rencontré 2-3 gars de Saint-Léonard, puis on sortait des cash, puis on jouait aux cartes à tous les jours. Là.
Pour revenir à Pascal.
Non, mais c'est quelque chose. Quand tu dis que Pascal Vincent, il est cérébral, OK, son client, il dit qu'il est cérébral. Là, tu me dis qu'il était prêt d'y aller à l'école de médecine, là. Il est cérébral, là.
Il est cérébral, il est très intelligent, il est un très bon communicateur, mais c'est quelqu'un qui holds players' feet to the fire. C'est comme Tortorella. C'est pas un club de country club. C'est pas
mais
un club
si c'est quelqu'un qui voulait être docteur avant, il pourrait certainement aider le Canadien en ce moment pour arrêter l'hémorragie.
Bon jeu de mots, Tony.
Merci beaucoup. Pas juste à Belfast, moi.
Non, mais encore une fois, pour retourner au sérieux, Pascal, je suis convaincu qu'il va retourner comme un entraîneur-chef dans la Ligue nationale.
Ah oui?
On ne sait pas qu'est-ce
qu'il va... À court terme, à long terme?
Mais on ne sait pas. On sait, de manière que ça fonctionne, on ne sait pas. Là, on est rendu au point que les équipes ont joué quoi? 6, 7, 8 oui. parties. Puis déjà là, on pense à qui va être congédié.
C'est quoi ses forces au niveau de la tactique? C'est-tu quelqu'un qui est plus fort sur le jeu offensif, plus fort sur le jeu défensif? C'est-tu un généraliste? Parce que ça existe aussi des généralistes. Comment tu l'expliquerais?
Moi, je dirais qu'il est généraliste.
Oui.
Il est très bon à vendre sa philosophie aux adjoints. Pas pour dire « my way or the highway », mais c'est quelqu'un qui est inclusif,
oui.
pas exclusif.
Oui.
C'est quelqu'un qui prend les idées du groupe autour de lui.
Il délègue à ses adjoints, il leur donne des responsabilités.
C'est pas un micromanager, c'est pas quelqu'un qui est... c'est moi.
Oui.
Puis il y en a des micromanagers sur les équipes. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment inclusif au point de vue de la gestion de l'équipe.
OK. Maintenant, là, on vient aux vraies choses, là. Encore une fois, là, on parle là, dans le futur, là, OK? Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui est entraîneur avec un club pour la vie. À un moment donné, tu sais, Martin Saint-Louis, il va faire son temps, puis on va voir. Puis il y a beaucoup de clubs que quand tu fais ton temps, ils regardent à l'intérieur de l'organisation, ils vont regarder l'équipe de la Ligue américaine de hockey, tu sais. Tu sais que Montréal, il est différent des autres marchés. Tu sais, c'est la pression ici... Et pas comme ailleurs.
Ouais.
Il est énorme. Puis tout ce qui vient avec, ça prend quelqu'un qui a vraiment l'étoffe, ça prend quelqu'un de particulier. Là. C'est pas pour tout le monde. Là. Tony Marinaro, Alex Langteau, pour pas être coach des Canadiens. Là. Ça prend quelqu'un vraiment fait fort. Comment qu'il est fort?
Moi, je dirais qu'il est très fort au point de vue de ses aptitudes comme coach. Que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs. Il y en a des autres marchés de hockey qui sont très... dont la pression est énorme. Toronto, mais je peux nommer les équipes, Toronto, Boston. Il y en a des marchés à New York. C'est difficile dans ces marchés-là. Mais encore une fois, d'après moi, ce qui est très important, c'est la communication. C'est ça le rôle d'un entraîneur.
Ouais.
C'est certain que c'est un avantage si tu es un tacticien. Mais si tu n'es pas un tacticien, comment est-ce que tu communiques? Parce que le message doit être envoyé et reçu par les joueurs qui vont retourner ce qu'ils entendent en performance. Mais si tu n'es pas bon en communication, c'est là que les problèmes commencent. C'est les communications externes avec les médias, c'est certain, comme vous autres, comme toi
ouais.
particulièrement. Mais sinon, ça prend quelqu'un qui est confiant dans ses pensées, puis confiant dans ses décisions.
Si je ne me trompe pas, tu as rendez-vous avec Pascal bientôt, n'est-ce
oui,
pas?
Oui.
OK. Avant que tu quittes,
oui.
deux, trois autres questions vite. OK?
Oui.
Comment tu as eu l'idée de partir cette compagnie-là?
Ça date. Ben, j'étais le chair of the board, le président du conseil des Olympiques spéciaux Canada. J'ai joué football à McGill. J'étais entraîneur à McGill pendant 2 ans quand on a gagné la Coupe Vanier. Puis j'avais beaucoup de connexions en sport. Puis j'étais un banquier à ces temps-là. J'étais un bank exec. J'ai remarqué comme quoi les entraîneurs n'avaient pas quelqu'un dans leur coin pour that had their back. Quelqu'un
ouais.
qui était là.
Qui les épaulait.
C'est ça. Parce que quand t'es un entraîneur, ça va mal. L'équipe va pas te supporter au niveau publiquement.
Non.
Alors, il y en a des journalistes qui attaquent mes clients. Alors, c'est
je
moi
déteste
qui...
ces genres de journalistes-là, moi. Ils sont épouvantables. C'est des pourris.
Imagine.
Il y en a même qui appellent leur mère. Là. C'est épouvantable. Là.
Imagine. Non, alors, j'ai parti ça parce que j'ai vu comme quoi il y avait, t'as parlé tantôt d'une
ouais.
niche. Il y avait personne vraiment qui représentait les entraîneurs. Écoute, dans le hockey, c'est nouveau. NBA, NFL, ça existe depuis longtemps, mais les règlements sont différents pour les agents. Comme le NFL, tu peux représenter tout le monde. Tu peux représenter les joueurs, les présidents, les entraîneurs, n'importe qui. En hockey, si tu fais partie du NHLPA, comme les joueurs, tu peux un que représenter les membres du PA.
On ne rentrait pas dans les détails, là, oui. Mais c'est-tu vrai, moi j'avais entendu que tu as fait en sorte un peu faciliter un peu le retour de Patrick Roy à un moment donné, oui ou non?
Oui, quand Patrick était propriétaire à Québec, ça fait presque 2 ans, j'ai parlé avec Patrick, quelqu'un l'a référé à moi, puis il voulait savoir s'il avait une opportunité encore une fois à retourner dans la Ligue nationale, parce que c'est, ça n'a pas terminé de la bonne façon à Colorado. Alors, c'est moi qui Patrick m'a engagé, puis j'ai commencé les discussions, j'ai commencé les discours avec des équipes, puis on sait où il est rendu, alors il est rendu retourné dans la Ligue nationale.
Ouais.
Alors, je dirais que c'était pas un fluke.
Il n'y avait jamais des chances entre Patrick et le Canadien? Le Canadien avait déjà engagé leur...
C'est une question hypothétique, parce que il y a d'histoire, puis je ne vais pas me rentrer.
Alex va te poser une question, puis moi j'en ai une dernière pour toi.
Neil, on se connaît peu. On a fait notre rencontre tantôt. Tu sembles avoir représenté tellement de personnes. Il semble se passer énormément de choses dans ta vie professionnelle. Moi, je suis curieux. À la quantité de personnes que tu as représentées, tu dois avoir vécu des histoires folles. C'est quoi ton histoire la plus folle que tu as vécue?
C'est une très bonne question.
Bravo. Mes questions à moi, tu dis rien.
Tu vois, Tony, tu
dis très bonne question.
Ces questions sont ridicules. Bonne question, Alex.
Merci
pour avoir retourné un petit peu d'intelligence à la discussion.
Prends des notes, Tony.
Qu'est-ce que je te dis quand je te vois tous les matins?
Salut mon assiseur. J'ai le marmonné pour pas que ça sorte, mais ça sonne. Salut mon de crosseur.
Je peux te dire que Tony a mentionné tantôt, je travaille parmi plusieurs ligues avec des entraîneurs puis des DG, etc. La personne que j'ai rencontrée, que j'ai eu le plus de fun avec, plaisir. C'est Evander Holyfield.
Wow.
J'ai représenté Evander pour 3 ans. J'étais son gars. Il connaît mon numéro de téléphone par cœur parce que je lui ai dit la première journée, quand il y a quelqu'un qui t'approche pour représenter son produit ou pour faire un film ou whatever, tu réponds pas, tu leur donnes mon numéro de téléphone, ils vont m'appeler. Alors, en anglais, je dis « I was the one that kept the sharks away ». C'est moi qui ai s'assuré comme quoi, parce qu'il était très facile, il est gullible un petit peu, il est très facile à approcher. Mais il savait mon numéro de téléphone par cœur.
C'est toi qui t'as assuré de tenir les requins à distance.
Exactement.
C'est rendu bon, moi,
t'es incroyable, Tony.
Ça se peut pas.
T'es incroyable.
Prof à McGill bientôt.
Justement, je vais faire mon devoir ce soir quand je suis parti de McGill. mais avec Evander, il y en a des histoires. Peut-être un jour, tu m'inviteras encore. Je peux te partager.
Ça sera un plaisir.
C'est vraiment le fun. C'était le fun, puis... spécial.
Neil, en terminant,
oui.
Toi qui reviens à Montréal après 30 ans, mais tu es ici en visite, évidemment, tu vas aller au match de football ce soir. Là.
Oui, et les Alouettes demain.
Et les Alouettes demain, fantastique. Une des choses dont on parle souvent, c'est est-ce que l'entraîneur des Canadiens doit être soit un francophone ou doit parler français? Pour toi, évidemment, c'est important. Tu reviens à Montréal 30 ans plus tard, tu parles français. Est-ce qu'un jour, un Mike Sullivan pourrait être l'entraîneur des Canadiens de Montréal, par exemple? Et si oui, c'est quoi les conseils que toi, tu lui donneras? Tu lui donnerais?
OK, je donnerai une réponse personnelle. Parler le français comme entraîneur des Canadiens is a nice to have, pas un need to have, pour moi.
Okay.
Juste pour dire, je ne sais pas le dire.
Oui, ça serait beau.
Mais ce n'est pas nécessaire. Pour moi.
OK.
Parce que la communication entre l'entraîneur et les joueurs se fait en anglais.
Oui. Okay?
Normalement, l'anglais, c'est la langue universelle pour les sports.
Oui.
Alors, j'ai dit il y a 5 minutes que la communication est très importante. Je comprends le média, je comprends les fans, je comprends l'affaire francophone ici, je comprends, je suis un gars d'ici, je suis originaire d'ici, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important pour quelques-uns, mais c'est pas quelque chose nécessaire. Comme juste en parlant, Jeff Gorton, il n'est pas français. Kent Hughes, j'étais très impressionné quand Kent était engagé.
Oui.
Je pense que son français est impeccable. Puis pour un gars qui a vécu aux États-Unis, c'était très impressionnant pour moi, parce que je ne savais pas qu'il parlait français, qu'il était capable à transiger en français. Alors, je reste pas à Montréal. Je ne sais pas combien d'entrevues Jeff Gorton il fait. Mais c'est certain qu'ils se sont faits en anglais.
Oui.
Mais je pense pas que l'affaire que Jeff Gorton, qui est américain, qui est là, qui parle pas français, a un effet sur l'équipe des Canadiens.
Mais si tu avais un client, genre Mike Sullivan, qui un jour serait l'entraîneur des Canadiens, tu lui conseillerais de prendre des cours?
Oui, c'est certain. Puis, I'd say, hire the best guy. Juste en passant, exactement sur ça, Mark Crawford était un de mes clients il y a quelques années.
Oui.
Mark était dans le candidateur il y a, quoi, 10 ans à peu près, ici à Montréal.
Oui.
C'était contre Claude Julien.
Oui, oui. Il était parmi les candidats.
Oui. Mark, j'avais quelqu'un que j'ai travaillé avec à la Banque nationale, dont sa femme est un tutor, un professeur de français. Alors, Marc, j'ai engagé Marc
T'as embauché la tuteur pour Mark Crawford.
Exactement. Ouais. Pour pratiquer son français. En cas que lui était le candidat sélectionné à Montréal.
Si t'as encore le numéro de la tuteur, s'il vous plaît, je pense que j'ai besoin d'aide moi aussi. Neil Glassberg de PBI Sports, agent qui représente environ une cinquantaine d'entraîneurs, directeurs généraux, assistants dans tous les sports. On n'a même pas parlé du baseball, du football. T'as déjà représenté Evander Holyfield dans le monde du boxe, comme tu viens de le dire. Quel beau plaisir un matin de t'avoir accueilli en studio. Maintenant, tu sais, il est où? BPM Sport à Montréal, c'est ici, au 200 Laurier West. Et je veux que tu saches là que BPM Sport, là, c'est fait comme si c'est chez toi.
Okay, donc, parfait,
n'importe
merci.
Quand tu veux venir, là.
Merci beaucoup. Puis plein de stationnements en remarquant ça.
Il y en a. Ouais.
Ah, c'était parfait. Les 4 $ à Toronto, ça me coûterait 25 $ pour stationner. Alors, merci.
Merci, Neil.
OK,
bonne continuation.
Merci,
bonne fin de semaine. Neil Glassberg de PBI Sports.